Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous poursuivons l'étude de la pénitence avec d'autant plus d'intérêt qu'il s'agit là vraiment d'une merveille qui nous montre à quel point Dieu nous aime et nous communique son amour. Nous allons voir aujourd'hui quels sont les effets de la pénitence. Cela aura peut-être une allure de catalogue, mais je ne crois pas, au contraire. Cela vous fera prendre conscience de toutes ces richesses qui sont naturelles pour un chrétien, que le péché fait perdre et que la pénitence restitue. Tout ce qui donne raison de cette partie, tout ce qui domine cette partie, c'est l'amitié que Dieu crée entre lui et nous. Quand vous avez compris que la grâce a pour but de créer une amitié à travers la charité, vous comprenez sans peine que le péché détruit cette amitié et que la pénitence est la restitution de cette amitié par Dieu au pécheur. Et il est évident que s'il y a restitution de l'amitié, il y a des conséquences, des effets bénéfiques que nous allons justement voir en détail. Le premier effet de la pénitence, c'est la rémission des péchés mortels. La réponse, évidemment, peut vous paraître évidente. Bien sûr que les péchés mortels sont remis par la pénitence, c'est l'objet. Mais saint Thomas va avancer pas à pas pour nous faire prendre conscience, d'une part, de la richesse de ce que Dieu nous donne, et deuxièmement, de la manière selon laquelle nous allons collaborer avec le bon Dieu. Parce que s'il s'agit d'amitié, tout ne vient pas d'un seul côté. Il y a une réciproque, il y a une réponse. Et vous vous rappelez que je vous ai dit, j'ai même fait deux sermons là-dessus, que la matière du sacrement de pénitence, c'était les actes du pénitent. Et je vous ai pris la comparaison faite par saint Thomas entre les deux médicaments, enfin les deux médecines plus exactement. Vous avez soit l'application d'un remède extérieur, c'est le cas du baptême, soit on relance la vie. Je vous avais pris l'exemple du cataplasme, mais on peut prendre un exemple bien meilleur encore, l'exercice physique. Un bon médecin qui fait faire de l'exercice physique à son malade et qui oblige le malade, sous l'impulsion du médecin bien entendu, à se donner du mal pour revigorer la vie qui est en lui. Alors, le bon Dieu rend la vie à celui qui est mort, mais en même temps, il lui demande des exercices qui ne sont plus physiques cette fois-ci, qui sont des exercices d'amitié. Alors, saint Thomas, vous disais-je, avance pas à pas. Sa première question, tous les péchés mortels sont-ils enlevés par la pénitence? Et il répond oui. C'est très important cela. Parce que cela veut dire qu'on ne peut jamais désespérer de son propre salut, ni du salut de qui que ce soit. Saint Thomas donne plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, la liberté de l'homme peut toujours revenir vers Dieu tant qu'elle n'est pas fixée dans le mal. Or, il n'y a que les damnés qui soient fixés dans le mal. Deuxièmement, la puissance de la grâce peut amener à la pénitence le cœur de n'importe quel pécheur. Dieu est puissant. Troisièmement, la puissance des mérites de la passion du Christ est suffisante pour remettre tous les péchés de l'univers. Et si saint Thomas insiste, c'est parce qu'il y eut des rigoristes qui déclaraient qu'on ne pouvait plus obtenir le pardon des péchés après la première fois. Voyons, on pouvait recevoir le sacrement de pénitence une fois, mais pas deux. Ou bien qu'il y a des péchés horribles dont on ne peut pas obtenir le pardon, ou d'autres choses semblables. Bien sûr, il y a des situations dans lesquelles les pécheurs multiplient les obstacles à la bonté de Dieu et donc vont rendre difficile leur retour à Dieu. Mais même cela, c'est le cas du premier converti de la médaille miraculeuse, qui était un franc-maçon endurci. Il suffit de lui porter la médaille miraculeuse et le franc-maçon se convertit. Deuxième question que pose saint Thomas, les péchés peuvent-ils être remis sans la pénitence? Donc nous avons vu d'abord que la pénitence peut remettre tous les péchés, et nous voyons maintenant, mais est-elle nécessaire? Y a-t-il d'autres moyens de remettre les péchés que la pénitence? Et saint Thomas nous fait remarquer la différence entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Les hommes aiment ce qui est déjà bon. Les hommes trouvent quelque chose de bon et l'aiment. Le bon Dieu, lui, au contraire, donne la bonté pour pouvoir aimer. Et par conséquent, il ne peut pas se produire que Dieu pardonne une offense à quelqu'un sans qu'il change sa volonté intérieure. Et je vous l'ai déjà dit, c'est ce qui fait la différence avec les protestants, une des différences avec les protestants. Pour le protestant, Dieu pardonne le péché sans changer l'homme à l'intérieur, ce qui est très pratique, parce que du coup, n'étant pas changé de l'intérieur, l'homme n'a plus besoin de se conduire vertueusement, il peut continuer à pécher à sa guise, tout en étant persuadé que Dieu continuera à le pardonner. Tandis que nous, le bon Dieu change de l'intérieur. Et s'il change de l'intérieur, nécessairement, il retourne le cœur de l'homme, le cœur du pécheur, vers lui, le bon Dieu. Et c'est justement cela qu'on appelle la pénitence. La pénitence, c'est le retour à Dieu du pécheur qui quitte la créature pour revenir à Dieu, comme par le péché, il avait quitté Dieu pour aller à la créature. La troisième question de saint Thomas, le péché mortel peut-il être pardonné sans le sacrement de pénitence? La question d'avant, c'était sans la pénitence. Or, vous vous rappelez, il y a la pénitence vertu et la pénitence sacrement. Et donc, nous savons que la vertu remet les péchés, mais le sacrement est-il nécessaire? Réponse, la vertu trouve son achèvement et sa perfection dans l'absolution donnée par le sacrement. Il y a un lien entre les deux. Il y a un début de vertu qui est apporté par le pécheur, enfin qui est donné par Dieu, que le pécheur apporte au sacrement, et l'absolution qui tombe sur ce début de vertu rend la vertu parfaite, et la vertu parfaite grâce à l'action du prêtre, c'est-à-dire aux paroles de Dieu en réalité à travers le prêtre. Cette vertu parfaite a tous les effets que nous sommes en train d'étudier. Saint Thomas fait remarquer que Jésus-Christ peut se passer du ministère du prêtre, comme il l'a fait par exemple pour la femme adultère, encore que c'est lui qui était le prêtre là. Mais il ne se passe jamais de la vertu. Ça serait contraire à la raison, et Dieu ne peut pas faire des choses déraisonnables ni folles. Ce serait contraire à la raison que de remettre le péché sans la vertu de pénitence. En outre, mais nous reverrons cela, la vertu, même seule, est toujours dans la dépendance du sacrement. La contrition parfaite est un sacrement de désir. Les péchés peuvent-ils être remis l'un sans l'autre? Là, c'est quelque chose de très concret aussi pour vous, mes bien chers frères. Non, bien entendu, les péchés mortels, on parle. Non, bien entendu, il ne peut pas y avoir un péché mortel qui soit remis et les autres qui ne soient pas remis. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être à la fois ami et ennemi de Dieu. On ne peut pas être à moitié ami et à moitié ennemi. Donc lorsque Dieu tourne le cœur, il tourne le cœur complètement, et cela entraîne un détachement complet de la créature, donc du péché. Et s'il n'y a pas un détachement complet, alors à ce moment-là, ça veut dire que le cœur n'est pas retourné vers Dieu, n'est pas converti, et donc il n'y a pas de pénitence du tout. Il y a des conséquences et des applications qui sont importantes. Nous verrons cela lorsque nous parlerons de la confession, mais un péché mortel caché volontairement en confession, cela prouve qu'on ne le regrette pas. À ce moment-là, aucun péché n'est pardonné. À l'inverse, un péché omis involontairement est pardonné. Car un ami déteste tout ce qui fait de la peine à son ami, même ce dont il ne se souvient plus. Si un enfant demande pardon à sa maman d'une grosse bêtise mais cache l'autre bêtise, il n'est pas pardonné de rien du tout et même il commet un troisième péché. Par contre, si un enfant demande pardon d'une grosse bêtise et qu'il oublie qu'il en avait déjà eu une auparavant dont il n'avait pas demandé pardon, la maman lui rend son amitié, il est évident que la grosse bêtise omise involontairement est également pardonné. Il y a une conséquence également pour les scrupuleux. Le scrupuleux est quelqu'un qui a du mal à juger. Alors il voit des péchés mortels là où il n'y a que péché véniel, et cela l'inquiète parce que le confesseur le rassure, et le pénitent se dit, mais si le confesseur s'est trompé, alors le péché est vraiment mortel. Le confesseur insiste, non, parce que si on l'accuse, alors on n'en sort plus. Et il fait ça pour soulager le pénitent. Et le pénitent est dans l'inquiétude en se disant, si le prêtre s'est trompé, je ne serai pas pardonné. Alors non, toujours selon le même principe, on ne peut pas être à la fois ami et ennemi. Le pénitent qui obéit au prêtre, qui représente notre Seigneur, le fait pour être fidèle à notre Seigneur, pour rentrer dans son amitié si jamais il l'avait perdu. Et par conséquent, si par malheur, un péché que le prêtre lui a interdit, sur lequel il lui a interdit de revenir, était cependant vraiment mortel, ce péché est vraiment pardonné. Et à ce moment-là, tant mieux pour le scrupuleux, tant mieux, c'est une telle peine d'être scrupuleux qu'il préférerait encore avoir à dire des péchés mortels plutôt que de torturer comme il est torturé. Et donc le prêtre le soulage, et le bon Dieu non seulement cautionne et valide ce que le prêtre fait, mais le bon Dieu, quand il rend son amitié, la rend sur tout et efface tous les péchés. Maintenant, après le péché, il y a la peine. Est-ce que la pénitence remet la peine due au péché? Vous savez que le péché est une aversion de Dieu par la conversion à la créature. Je vous donne cette formule qui est connue et que vous retrouverez souvent, et qui signifie aversion de Dieu, c'est-à-dire se détourner de Dieu, par conversion à la créature, c'est-à-dire pour se tourner vers la créature. Et donc il va y avoir une double peine au péché. L'aversion de Dieu est punie d'une peine éternelle, c'est-à-dire tu ne veux pas de Dieu, tu seras privé de Dieu, or Dieu est éternel, donc c'est une peine éternelle. La conversion à la créature est punie d'une peine temporelle, c'est-à-dire dans le temps, c'est-à-dire ici-bas ou au purgatoire. Alors je vous disais que la pénitence est le fruit de l'amitié divine. Notre Seigneur à Simon à propos de Sainte Marie-Madeleine, parce qu'elle a beaucoup aimé, lui est beaucoup pardonné. Comment une pécheresse pouvait-elle aimer? Mais parce que Dieu lui a donné de l'amour. Comme il lui a donné beaucoup d'amour, elle répond avec beaucoup d'amour, elle aurait pu ne pas répondre. Elle répond avec beaucoup d'amour, et à ce moment-là, il lui a beaucoup pardonné. Et notamment, pas seulement pour les péchés, mais là aussi pour la peine. Donc comme la pénitence est le fruit de l'amitié divine, il est impossible que Dieu rende son amitié tout en maintenant la peine éternelle qui prive de l'amitié pour toujours. On ne rend pas l'amitié pour un seul temps. Quant à la peine temporelle, le bon Dieu peut maintenir plus ou moins cette peine, car elle n'est pas incompatible avec l'amitié, et même elle peut la développer. Car la remise de la peine temporelle sera un travail commun de l'homme avec Dieu pour la perfection de l'amitié. C'est ce que je vous disais au début, le bon Dieu peut soit guérir complètement, soit vous faire faire des exercices d'amitié, et tous ces exercices vont restituer la vigueur de la grâce et de l'amour de Dieu en vous, et par conséquent vont faire disparaître les conséquences du péché. Par conséquent, parce qu'il y a une conséquence, là il faut la noter, mieux le pénitent est disposé, c'est-à-dire plus il a d'amour de Dieu, et plus la peine temporelle est diminuée. On raconte ainsi l'histoire que j'ai lue dans une vie de saint, je ne sais plus de quel saint il s'agissait, d'un pénitent qui avait un gros paquet à vider. Le confesseur lui donne une pénitence, une prière un peu lourde, mais enfin, ça n'était quand même pas de se flageller tous les jours. Et le pénitent dit « Oh non, ce n'est pas assez comme pénitence, il faut que vous me donniez plus. » Alors le confesseur modifie la pénitence et il la diminue. Alors le pénitent, à ce moment-là, dit « Mais non, vu la gravité de mes péchés, il faut une peine beaucoup plus lourde. » Et le confesseur modifie une deuxième fois la pénitence et il la diminue encore jusqu'à arriver quasiment à rien. Pourquoi ? Parce que il voit un tel amour de Dieu chez ce pénitent qu'il estime qu'une grande partie de la pénitence est déjà faite et il veut que le pénitent s'en rende compte. Et il lui fait prendre conscience de l'importance de l'amitié plus que de la peine qu'il faut subir. Quand je vous parle de la pénitence, là il s'agissait de la pénitence sacramentelle, c'est-à-dire de la peine qui est infligée par le confesseur. La pénitence laisse-t-elle subsister des restes de péché ? Eh oui, nous avons vu aversion de Dieu, conversion à la créature. La pénitence retourne vers Dieu, ça c'est l'essentiel, et il peut rester des attaches à la créature, et il va en rester, hélas, à cause de la blessure. Ces restes du péché sont cependant affaiblis, diminués. Vous voyez, un ivrogne qui va se confesser retrouve la grâce, retrouve la vertu infuse de sobriété, mais la blessure et le penchant pour la bouteille ne vont pas se guérir comme cela. Et c'est très important, cela mes bien chers frères, pour les péchés qui sont souvent répétés. Des péchés de faiblesse, vous voyez. Parce que les péchés de malice, on veut ou on veut pas. Si on veut pas, c'est fini. Le franc-maçon qui retombe dans sa franc-maçonnerie par faiblesse, ça n'existe pas. Par contre, l'ivrogne qui retombe dans son verre de vin, ou celui qui manque de chasteté et qui retombe dans des fautes de faiblesse contre la chasteté, oui, ça existe. Et alors c'est très important. Il y a des restes du péché qui, normalement, avec la grâce de Dieu, ne devraient pas entraîner de péché mortel. Ils vont entraîner des difficultés, mais pas de péché mortel, parce que la grâce est puissante. Malgré tout, si l'homme n'a pas été assez fidèle à la grâce et qu'il retombe dans le péché mortel, il ne faut surtout pas qu'il se décourage, parce que à chaque fois qu'il remonte la pente, à chaque fois qu'il fait un effort, à chaque fois il diminue les restes du péché et il finit par se guérir. Et le conseil d'ailleurs à donner dans ce cas-là, c'est de se confesser souvent, et même de se confesser avant de retomber dans le péché, justement pour ne pas attendre de recréer une blessure, mais de guérir la blessure passée sans qu'un nouveau péché vienne la rouvrir. Alors peu de gens comprennent cela, vous voyez, de venir se confesser pour ne pas pécher, parce que la pénitence est un remède préventif et pas seulement curatif. Saint Thomas pose une dernière question à propos de la remise des péchés. Il dit, est-ce le sacrement de pénitence ou bien la vertu qui enlève le péché ? Il dit ce que je vous ai déjà rappelé, c'est le sacrement qui donne la perfection à la vertu. Et par conséquent, la rémission de la faute, même lorsqu'elle vient de la simple contrition parfaite, La contrition parfaite est une pénitence de désir, un sacrement de pénitence de désir, et les deux sont liés, c'est-à-dire que le bon Dieu donne par anticipation ce qu'il va donner dans le sacrement, mais c'est en lien avec le sacrement. La même chose que pour le baptême de désir. Et la même chose que pour la communion de désir. La communion de désir est une communion qui est par rapport à la communion sacramentelle. Le baptême de désir est par rapport au baptême sacramentel. Eh bien, la contrition parfaite, qui est une véritable pénitence, est un sacrement de désir. Le deuxième objet dont traite saint Thomas d'Aquin, c'est la remise des péchés véniels. Alors, faut-il la pénitence pour remettre les péchés véniels? Ah ben oui. Oui, parce que le péché véniel est un désordre. Un désordre qui ne va pas jusqu'à détruire la charité, mais qui la retarde, qui l'affaiblit. Il la diminue pas, mais l'affaiblit. Et saint Thomas rappelle que celui qui néglige le péché véniel finira par tomber dans le péché mortel, nécessairement. Donc il faut bien la pénitence pour remettre le péché véniel. Il insiste, le péché véniel ne peut-il être remis sans la pénitence? Et il dit non, il faut un détachement et même un regret des péchés véniels pour que ceci soit pardonné. On ne peut pas avoir un pardon des péchés véniels auxquels on demeure attaché. Alors, il donne trois opérations, trois actes qui favorisent ou même qui donnent la rémission des péchés véniels. Tout d'abord, les actes qui donnent une infusion de grâce, puisque la grâce qui remet les péchés mortels, à plus forte raison, remet les péchés véniels. Mais attention, encore une fois, les péchés véniels qu'on regrette, parce qu'elle ne remet pas les péchés véniels qu'on ne regrette pas. Et là, il n'en va pas comme pour le péché mortel, comme le péché véniel, hélas, peut coexister avec la grâce. S'il y a des péchés véniels non regrettés, ils ne sont pas pardonnés, et cependant la grâce est rendue et les péchés mortels sont pardonnés. Et c'est là que saint Thomas fait remarquer que c'est quand même malgré tout un jeu dangereux. La deuxième manière d'obtenir la rémission des péchés véniels, c'est de provoquer un mouvement de détestation du péché. Et c'est ainsi que la récitation du Confiteor, à condition que ce ne soit pas fait comme une mécanique. Le Paternoster, le Notre Père, dans lequel on demande « pardonnez-nous nos offenses », l'acte de se frapper la poitrine, tout cela, ce sont des détestations du péché. Troisième manière, c'est d'exciter un mouvement de révérence envers Dieu, envers les choses divines. Et cette façon, une bénédiction épiscopale, l'aspersion de l'eau bénite, les onctions rituelles, la prière dans une église consacrée, tout cela favorise un plus grand lien avec Dieu et donc détache du péché véniel. Mais encore une fois, à condition de le vouloir. Troisième sujet maintenant, qu'étudie saint Thomas. Donc, est-ce que la vertu revit grâce à la pénitence? Et alors, la réponse est oui. Oui, parce qu'il ne peut pas y avoir de grâce sans la vertu, puisque la grâce est le socle de la vertu. La grâce est donnée pour qu'on aime Dieu et qu'on fasse les actes d'amour de Dieu, les actes d'amour du prochain qui sont nécessaires et qui vont avec l'acte d'amour de Dieu. Alors si le bon Dieu donnait la grâce et donnait pas la vertu, il ressusciterait un homme qu'il paralyserait en même temps. Ce serait ridicule. Par la pénitence, les vertus nous sont-elles rendues au même degré qu'auparavant? Et voilà, là, c'est intéressant. Eh bien, cela dépend des dispositions du sujet. On suppose, vous aviez un tonneau de vin. Par votre faute, vous l'avez laissé percer et tout le vin est parti. Dieu vous rend le tonneau de vin. Si vous venez avec un verre, vous aviez beau avoir perdu un tonneau et le bon Dieu veut vous rendre la quantité du tonneau, vous ne repartirez qu'avec un verre. Si vous venez avec une bouteille, vous repartirez avec une bouteille. Si vous revenez avec un tonneau, vous repartirez avec un tonneau. Et si vous venez avec un tuyau qui sera branché directement sur la source de la charité, eh bien, vous aurez une abondance, une surabondance de vertus. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une collaboration. C'est là qu'on voit que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas comme le baptême. Le baptême, vous avez quelqu'un qui n'a rien. Donc Dieu lui donne tout. Maintenant, nous avons quelqu'un qui a la vie, qui l'a perdue par sa faute, Dieu la lui rend, mais il demande une collaboration, parce que justement, c'est le propre de l'amitié, qu'elle soit réciproque et non pas d'un seul côté. Par la pénitence, l'homme retrouve-t-il sa dignité ? Ah, c'est intéressant, ça c'est la question de Vatican II, la dignité de l'homme. Alors, la dignité principale de l'homme, elle n'est pas, comme l'affirme Vatican II, dans le fait d'être homme. Elle est dans le fait de l'amour, évidemment. Un homme qui est un voleur n'est pas digne. Donc, la dignité principale nous met au nombre des élus. Elle découle directement de la charité. Et il est évident qu'elle est rendue par la pénitence. C'est-à-dire qu'un mécréant retrouve la place qu'il lui est réservé pour être compagnon des anges. Attention, dans la mesure de la charité, donc dans la mesure des bonnes dispositions, parce qu'il y a quand même plusieurs niveaux de dignité, et celui qui a une pénitence faible retrouve un niveau moindre de dignité, et celui qui a une pénitence forte retrouve un niveau qui peut même être supérieur. C'est le cas de la conversion de Sainte Marie-Madeleine, une conversion immédiate. Et à ce moment-là, une dignité, enfin, Marie-Madeleine, qui avait 7 démons, qui était habitée par 7 démons, devient d'un seul coup la grande sainte que l'on connaît. Il y a une deuxième dignité qui vient de l'innocence, et ça, la perte de l'innocence n'est jamais rendue. C'est comme la virginité. La virginité n'est pas rendue. C'est comme ça. On peut retrouver la chasteté, mais la virginité, non. Saint Jean Bosco insiste en disant quel malheur c'est de perdre son innocence. Et hélas, beaucoup d'adultes perdent facilement l'innocence. Mais les pères et mères de famille qui m'écoutaient, veillez à préserver l'innocence de vos enfants, c'est-à-dire à ce qu'ils ne tombent pas dans le péché mortel. Et quand un adolescent a évité le péché mortel, il lui sera très facile de continuer toute sa vie dans l'innocence. C'est au moment de l'adolescence que tout se joue. Et il ne faut pas partir battu d'avance. J'ai connu... Grâce à Dieu, je me suis occupé de très bons enfants et j'ai connu des enfants, pas très nombreux, mais un bon nombre quand même, qui ne sont jamais tombés dans le péché mortel. Et saint Thomas précise, même si on ne retrouve pas l'innocence, on peut retrouver mieux que l'innocence. Et il prend cet exemple. Un général préfère un soldat qui a pris la fuite mais qui revient courageusement au combat et fait... un beau combat, un soldat qui n'a jamais fui, mais qui ne se bat pas. Bien sûr, celui qui a fui, ben, il a la honte d'avoir fui. N'empêche que son combat est bien supérieur en dignité à la honte du péché. C'est le cas de Saint-Pierre, vous voyez. Tout le monde sait que Saint-Pierre a trahi, et tout le monde sait que Saint-Pierre a fait pénitence. Enfin, les œuvres, alors c'est très beau ça. Il est temps, il faut que je me presse un petit peu, mais c'est très très beau, je ne peux pas omettre cela. Les œuvres que vous avez faites autrefois, qui vous avaient mérité une place au ciel, plus ou moins belle, si jamais il y a eu le péché mortel, ces œuvres ne sont pas perdues, mais la place au ciel est perdue puisque vous avez mis un obstacle, le pécheur a mis un obstacle. Alors, par la pénitence, ces œuvres nous sont-elles rendues ou pas? Et cette place au ciel? Et alors saint Thomas dit, un ami n'oublie jamais ce que son ami a fait pour lui. Et si l'ami est devenu infidèle, malgré tout, celui qui a été offensé garde le souvenir des belles choses que l'autre a faites pour lui. Et quand son ami revient, eh bien il lui rend ces choses parce qu'elles n'ont pas été perdues. C'est simplement qu'elle ne pouvait plus être efficace à cause de l'obstacle, mais elle n'avait pas été perdue. Et les anges se réjouissent des belles œuvres qui ont été faites par les chrétiens. Si malheureusement le chrétien tombe dans le péché, les anges gardent ce souvenir. Et quand le pécheur revient à Dieu, les anges sont tout heureux que Dieu lui dise, eh bien voilà, tout ce que tu avais fait pour moi, eh bien je me le rappelle bien, je m'en souviens bien, et nous allons reparler parce que ça compte. C'est sur cette belle remarque, cette belle note que je termine ce sermon, qui est très encourageant. Vous voyez, quand vraiment on a compris ce qu'est la pénitence dans l'amour de Dieu, le carême devient très facile. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.